Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Gallès. Bonjour Clémentine.
Bonjour Raphaël.
Chef économiste et stratégiste chez Société Générale Private Banking. Face à vous, Erwan Tison. Bonjour Erwan.
Bonjour Raphaël.
Directeur des études de l'Institut de l'entreprise chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et Patrick Bertrand, bonjour Patrick.
Bonjour Raphaël.
Directeur général des opérations d'Allnet. Je vous le disais en début d'émission, l'INSEE a publié ce matin à 7h30 des chiffres, franchement pas bons. 68 000 chômeurs supplémentaires au premier trimestre, avant même que la crise au Moyen-Orient ait éclaté. C'est un plus haut depuis le premier trimestre 2021, Clémentine. J'ai envie de commencer avec vous. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce chiffre? On est à 8,1%, c'est un peu symbolique. Hein. On vient de passer la barre des 8% de chômage.
Alors, c'est clairement pas une bonne nouvelle. En plus, c'est une nouvelle qui se combine avec d'autres indicateurs conjoncturels qui sont plutôt mal orientés pour le premier trimestre. On a des chiffres à la fois de croissance économique qui se sont retrouvés à 0% au premier trimestre, qu'on peut comparer avec nos voisins européens où on a eu des chiffres de croissance pourtant positif, et aussi des chiffres d'indicateurs de climat des affaires, que ce soit côté entreprise et côté ménage, qui au premier trimestre sont aussi mal orientés. Donc on voit une économie française qui est fragilisée alors que les effets de la guerre en Iran sont en train seulement de se matérialiser. Alors pour autant, il faut peut-être pas surréagir sur ces chiffres. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas non plus une catastrophe, c'est-à-dire que pour l'instant on est plutôt sur une croissance qui resterait morose en France.
Erwan, on voit quand même qu'on cale le moteur français a complètement calé au premier trimestre. Clémentine l'a rappelé, croissance zéro, quand nos voisins font quand même plus 0,2, plus 0,3, c'est ce qu'on attendait nous aussi en France. Quelle analyse vous faites des chiffres de l'INSEE ce matin?
Il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement, quand la croissance est atone, il ne faut pas s'étonner derrière que le chômage...
En général, ça va de pair.
Mais il y a aussi un effet mécanique, un effet statistique, c'est-à-dire que vous avez une combinaison à la fois de la loi plein emploi et des montées en charge des différentes réformes de l'assurance chômage, notamment qui visait à durcir un peu plus certaines conditions et certaines indemnisations, et qui du coup mécaniquement en fait abreuve là purement statistiquement, on va dire, ce chiffre du chômage.
Donc c'est un effet mécanique, c'est pas qu'on détruit des emplois.
En fait, il y a une tendance sur le quand même depuis 3-4 ans en sortie post-Covid où la France a malheureusement moins bien rebondi que la plupart certains autres pays, mieux rebondi que d'autres pays comme l'Allemagne, mais moins bien que tel qu'elle aurait pu le faire si elle avait
du Sud notamment.
Et donc du coup, mécaniquement, quand vous avez une croissance qui est très faible, mécaniquement, vous pouvez pas créer de nombre d'emplois suffisant pour l'amortir. Mais il y a quand même un petit peu... Ça, c'est le premier effet. Il y a la tendance qui est quand même assez négative. Et là, vous avez un effet conjoncturel qui est dû effectivement à l'accumulation de cette tendance structurelle. On peut dire aussi que le climat des affaires, je rajouterai le climat fiscal également, parce que quand vous avez une augmentation d'une surtaxe d'IS qui pèse 8 milliards d'euros, alors 7,5 milliards collectés en 2025 sur les entreprises qui réalisent quasiment 25% des embauches dans ce pays, mécaniquement, quand vous augmentez la fiscalité sur ces entreprises qui sont les véritables locomotives, au bout d'un moment, ça commence à se voir dans les chiffres. Et donc, vous avez l'effet statistique dont on vient de parler avant, et puis après, peut-être une autre dimension un peu plus structurelle, qui là, je pense, est une inadéquation entre les compétences attendues et les compétences disponibles, qui tient à deux choses. Un choc technologique tel qu'on le voit de manière quotidienne, de toute façon, et dans les études académiques, on voit bien qu'en fait, le choc, on est en plein dedans, mais qui tient aussi à l'inadaptation la non-anticipation qu'on a pu faire sur le marché du travail. Comme on voit, par exemple, les taux de formation, d'accès de formation des salariés depuis 2018, oui. Et ben, en fait, ont fortement diminué. On a quasiment moins...
On a baissé la formation professionnelle depuis 2018.
En fait, on a baissé le taux de recours des adultes en poste, notamment les salariés en CDI, environ de 15% depuis 2018.
Ah oui,
parce que
massif.
Mais parce que c'est normal, parce que l'objectif de la loi de 2018, qui était une très bonne loi, était notamment d'aller former les outsiders, c'est-à-dire d'aller former les demandeurs d'emploi et former les apprentis. Oui. Et donc là, mécaniquement, l'effort a été moindre sur les salariés qui étaient en poste, notamment les salariés en poste dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. Pourquoi? Parce que la loi, en fait, a introduit quelque chose d'un peu vicieux pour eux, c'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si jamais ils veulent développer un plan de formation, ils doivent payer deux fois. Ils payent à la fois par la cotisation sur les salaires et ils doivent développer leur propre plan de formation payé parce que malheureusement, les plans qui sont proposés soit par les OPCO, soit de manière un peu plus nationale, ne s'adaptent pas à des spécificités directes pour les petites entreprises.
Et donc les décisions qui ont été prises à l'époque, comment ça se fait
quand vous avez des salariés qui sont plus formés, qui ne se forment plus depuis, enfin, moins depuis 5-6 ans, vous avez un choc technologique, un choc fiscal, un choc géopolitique et un choc économique en même temps, bah, effectivement, les compétences ne sont plus suffisamment meubles pour correspondre justement à cette nouvelle réalité.
Ouais, et ça, c'est durable, hein, Patrick, votre analyse des chiffres qu'on a vu ce matin.
Alors, l'analyse, plusieurs éléments. Le premier élément, je vous l'avais un petit peu abordé, c'est le fait que on est dans un schéma où c'est moins la destruction d'emplois que les créations d'emplois qui manquent. Donc c'est quand même un petit peu différent des grandes périodes chômage à deux chiffres où on voyait s'accumuler les headlines et les unes des journaux sur la destruction d'emplois. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc le deuxième point, c'est que la comparaison qui est faite est par rapport à une situation qui était extrêmement favorable. Donc oui, on remonte à 8, mais je rappelle que, si je dis pas de bêtises, Emmanuel Macron avait il y a 2 ou 3 ans expliqué que le taux normatif qui serait plutôt pas mal, c'était aux alentours de 9%. On n'y est pas encore, j'espère qu'on n'y arrivera pas.
Enfin, il y a 2-3 ans, il promettait le plein emploi, surtout en 2022, président de la République.
Là, on reste encore très dégradé par rapport à l'Europe. Hein, deux points ou 2,5 points.
L'Allemagne, il y a quoi, 3 ou 4 points, enfin, bref, le plein emploi est bien autre pays, d'ailleurs.
Après, Erwan évoquait la fiscalité. Alors, je vais rebondir indirectement, puisque ça a trait à la fiscalité, d'une certaine façon, c'est les aides aux entreprises. La loi de 2018 a été une loi absolument remarquable, avec une montée en puissance considérable de l'apprentissage, qui a été, mis en avant, non plus comme une voie de garage, mais comme une perspective de s'intégrer dans le monde de l'emploi, avec des niveaux de compétences très très différents. Et là, pardonnez-moi, mais on a vu il y a un an ou deux, quelques économistes dire ça coûte très cher, c'est 20 milliards ou 25 milliards, etc.
On en a beaucoup parlé sur ce plateau aussi, absolument.
Et pardon, parce que j'ai pas lu tout leur rapport, mais dans ce domaine-là, il faut toujours raisonner en solde. Oui,
ça coûte tant.
Est-ce que ça va coûter? Il y a des gens qui ne sont pas à l'assurance chômage et chez France Travail, qui payent des impôts, des employeurs qui payent des cotisations sociales quand les gens rentrent en plein emploi. Donc voilà, il faut être un peu prudent et cette loi et l'apprentissage a démontré son efficacité sociale et économique. Le sujet maintenant, c'est quid de son financement durable. Oui. Et de grâce, quand on commence à se préoccuper de dépenses publiques et que on tape immédiatement sur un sujet qui a montré son efficacité et qui est positif, y compris sur le plan social et sur le plan économique, franchement, il y a d'autres sujets. Si vous voulez, on peut en parler. Il y a 5 ou 6 mesures qui ressortent de tous les rapports sur ce qu'il faut faire pour rendre plus efficient les dépenses publiques. Et pas ça, parce que justement, elle a montré son efficience.
Oui, alors c'est un sujet moi absolument passionnant. Erwan, vous souhaitez réagir. Je lisais tout à l'heure un article de mes confrères de la Tribune, Grégoire Normand, quand même en 10 ans, 157 milliards d'euros de dépenses pour l'apprentissage. 157 milliards d'euros. On a financé des bacs plus 3 à bac plus 5. C'est un véritable débat qu'on peut avoir. Clémentine, puis Erwan Tison. Est-ce qu'il fallait financer des bacs plus 3 à bac plus 5 sur des deniers publics?
C'est vrai que la critique qui peut être faite, c'est que ces aides ont touché quasiment l'ensemble des jeunes, y compris ceux qui n'avaient pas forcément de difficultés pour s'intégrer sur le marché du travail. Et c'est là que les aides ont été réduites. Après, là où je rejoins le point, c'est qu'on reste très décalé sur un taux de chômage des jeunes en France qui est particulièrement dégradé, que ce soit à la fois sur les jeunes et sur les seniors. Et c'est vrai que c'était une mesure qui apportait un soutien significatif sur l'emploi du jeune.
Et on a un taux d'emploi chez les jeunes qui est record. Hein, et encore très, très, enfin, le chômage est beaucoup trop élevé, mais le taux d'emploi a très nettement augmenté. Erwan Tison.
Oui, sur l'apprentissage, je vais apporter un peu de débat, un peu de contradiction. Non, mais la loi était...
Mais on est là pour ça.
Débat et controverse. Non, la loi était très bien calibrée. Le surfinancement qui a eu lieu en sortie de Covid était important. On a fait ce que les économistes appellent l'effet Mathieu, c'est-à-dire qu'on a arrosé partout pour être sûr. On a arrosé au-delà de la cible pour être sûr de toucher la cible. Le recalibrage est intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, avant la réforme, on avait 2/3 des apprentis qui étaient niveau 3-4, c'est-à-dire inférieur au bac. Après, et 1/3 qui était au-delà. Et là, maintenant, après la réforme, on a 2/3, voire 70% des apprentis qui sont niveau bac plus 2 ou supérieur. Le problème, c'est qu'on a un stock très important de bac plus 5 jusqu'à bac plus 8. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes apprenti? Il se passe que c'est l'entreprise qui paye les frais de formation de l'entreprise. Et donc, la plupart des établissements, là, il y a une définition un peu floue, justement, de qu'est-ce qu'une, comment est-ce qu'on finance, quel est le coût d'une formation d'un apprenti. Et en général, un centre de formation, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va essayer d'équilibrer charges et coûts. Mais il met ce qu'il veut dans les charges, il met ce qu'il veut dans les coûts. Et donc, du coup, vous vous retrouvez des fois avec, et ça, ça a été documenté, avec des frais de formation qui étaient de 15, 20 000 euros par an. Dans des écoles, en plus, pas forcément reconnues par l'État ou pas forcément de bonne facture. Et donc, vous avez beaucoup d'établissements, en fait, qui ont beaucoup
donc d'établissements il y a un effet d'aubaine,
d'enseignement,
si vous
bien sûr, oui, mais... pour des bacs plus 5, qui, du coup, en fait, ont mécaniquement fait gonfler la facture pour, justement, se disant, bah, tiens, vous voulez prendre un bac plus 5, vous la... donc l'entreprise a la baisse de charge et en parallèle, il faut payer 20 000 balles. Et donc, le problème, c'est que pour 20 000 euros que vous allez dépenser pour les frais d'inscription d'un seul bac plus 5, eh ben, ça correspond à la dépense d'environ 10 personnes qui sont à bac moins 2, bac moins 3. Or, qu'est-ce qu'on a en parallèle? On a eu une augmentation, malheureusement, du nombre de NEETs. Qui sont,
il faut qu'on en parle. Hein. On a le graphique. Regardez le graphique depuis 2022.
Qui sont malheureusement,
ça repart à la hausse. Hein.
Et ça repart à la hausse. Et ça va ne faire que progresser. Et qui malheureusement ne sont pas concernés par l'apprentissage. Pourquoi? Parce que concrètement, un NEETS, ça se passe à quel moment?
Les NEETS, il faut rappeler. Tout le monde ne connaît pas.
C'est un jeune qui n'est ni en emploi, ni en stage, ni en formation.
Voilà. Ceux qui sont sortis du système scolaire sans
rien. Et ni en études.
Et un NEETS, ça se passe à quel moment? Ça se passe à peu près à la vous avez les travaux de Nathalie Chusseau qui explique ça très bien. À peu près à la fin de la troisième. Et ben le gamin, en général, on lui dit bah t'as pas des bonnes notes, bah tu vas aller en professionnel ou en technologique. Il se trouve que 60% de ces cas-là sont des choix subis, alors que c'est des carrières qui sont très 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 nobles et qui en plus recrutent avec des niveaux de salaire très importants. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est dévalorisé. Donc le gamin arrive, il est frustré. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il est pas forcément dans la bonne formation parce qu'on lui donne quelque chose par défaut. Et 6 mois après, il sort. On lui donne rien, donc il a même pas la possibilité d'accéder à l'apprentissage. Donc ce qui est intéressant dans la réforme de l'apprentissage, c'est de dire on coupe, on n'a rien coupé, on a allégé un petit peu la dépense pour les bac plus 5, bac plus 8, ce qui n'est pas déconnant. Et donc, du coup, par contre, ce qu'il faudrait, c'est plutôt que de faire comme on a fait dans le PLF, c'est-à-dire de ventiler ça pour réindexer les pensions de retraite, il faudrait peut-être se dire, on met ces 2 milliards, 4 milliards qu'on a économisés sur justement les gamins de 14 à 16 ans avec des formations personnalisées.
Mettre le paquet sur ceux qui en ont besoin.
Et là-dessus, c'est ce qu'il faut faire. Il faut un tuteur pour un jeune et il faut un coach de vie pour les suivre et pour les mener justement du décrochage jusqu'à l'entreprise. Mais ça demande du temps et des sous.
Erwan est très explicite, mais il faut quand même sortir du... Parce que le message général, c'est on va réduire les aides pour les apprentissages, ça a coûté des sommes absolument considérables, parce qu'il y a eu des effets d'aubaine.
Non, mais 157 milliards en 10 ans, 10 milliards de plus pour des bac plus 3, bac plus 5,
je le répète, c'est le chiffre brut, il faut raisonner en net, et on a un principe bien clair en France, c'est que chaque fois qu'il y a une mesure qui marche, mais qui a généré certaines dérives, ce que vous évoquez, les effets d'aubaine, on remet en cause la mesure. Arrêtons, faisons en sorte que ça soit mieux ciblé, comme l'a très bien évoqué Erwan.
Non, mais c'est bien ce qu'on dit.
Et raisonnons en sol.
Pas question de supprimer l'apprentissage.
Raisonnons en sol, parce que ces gens en emploi, eh bien, ils touchent pas d'allocation chômage et ça crée pas tous les sujets de santé mentale, recours au système de santé, etc. Et on voit assez peu ce raisonnement, malheureusement.
Allez, on va continuer à parler gros sous. Il est 9h46. Vous êtes en direct sur BFM Business. On va revenir sur les carburants. Greta Thunberg en rêvait, je le disais. Donald Trump l'a fait. Bah oui, la consommation de carburant s'est effondrée. C'est Sébastien Lecornu qui l'a indiqué hier. Il fait un point régulier, hein, tous les 10 jours, le Premier ministre désormais, moins 30%. Entre mai 2025 et mai 2026, moins 30% de consommation des carburants sur les 10 premiers jours du mois de mai. Bah oui, l'effet prix. Ça fonctionne, effectivement. Sauf que il y a les recettes fiscales qui vont avec. Et donc, c'est 300 millions d'euros de recettes fiscales perdues en 10 jours. On voit qu'on est très, très loin de l'effet cagnotte ou des profiteurs de crise qui étaient épinglés par certains partis il y a quelques semaines encore. Moi, mon interrogation ce matin, c'est de me dire, bon, ok, ce qu'on voit là sur la consommation des carburants, en fait, c'est ce qu'il faut faire pour la transition énergétique. Et on voit que ça a des conséquences budgétaires absolument colossal. Clémentine, je me tourne vers vous. On sait combien ça rapporte à peu près les recettes sur les carburants chaque année?
Alors, il y a deux types de taxes, peut-être avant de rentrer dans les chiffres. Il y a deux types de taxes qui s'appliquent sur le carburant. Il y a l'assise sur l'énergie, qui est une taxe fixe au litre.
Et donc, l'ancienne TICPE, ce qu'on appelait la TICPE.
Anciennement la TICPE, qui n'évolue pas en fonction du prix du carburant. Et après, il y a une TVA qui s'applique sur l'ensemble, y compris sur cette assise, et donc qui, au total, génère des rentrées fiscales importantes, puisqu'elles sont de l'ordre de 30 milliards si on regarde les chiffres sur 2024. Et c'est, on a d'abord l'impôt sur le revenu, la TVA, l'impôt sur les sociétés, et c'est le quatrième
retour. Eh oui, c'est pas rien.
Donc c'est pas rien, c'est pas négligeable dans le budget, évidemment. Là où les chiffres qui ont été évoqués, sans évidemment les remettre en cause, me semblent un peu exagérés, il faut attendre un peu d'avoir dans la durée, c'est que c'est massif, une baisse de 30%. On n'a jamais eu, dans les standards économiques, l'élasticité, c'est plutôt une hausse de 10% des prix. Ça fait une baisse de 0,2, 0,3. Donc, du coup, de 2%. Voilà. Donc, du coup, même si on a eu une hausse plutôt de l'ordre de 20% des prix du carburant, on ne s'attendait pas à une telle baisse de la demande. Donc, c'est assez substantiel. Donc, soit les chiffres sont exagérés parce qu'il y a un effet début mai et que ça va se corriger, soit les ménages sont particulièrement inquiets, soit ils réagissent très vite et ajustent très vite leur consommation, par exemple en faveur de véhicules électriques ou alternatifs.
Oui, on a eu les ventes de véhicules qui ont explosé aussi au premier trimestre, encore au mois d'avril. Erwan Tison, moi je suis allé voir les chiffres ce matin du rapport annuel de la Direction Générale des Finances Publiques qui publie les recettes année après année. Ils l'ont publié la semaine dernière. Je suis allé voir les taxes sur l'électricité parce qu'évidemment on se dit que si on n'a plus de taxes sur les carburants, on va le mettre sur l'électricité et puis voilà. Mais en fait, ça a déjà commencé. 2023, les taxes cumulées sur électricité, gaz, charbon, 2,5 milliards. 2025, 12 milliards. On a pris 10 milliards en deux ans. C'est ça qui va se passer, parce que j'imagine qu'à Bercy, on réfléchit à la substitution d'une énergie à l'autre.
Ce qui se passe, c'est un révélateur extraordinaire de à quoi sert un État. Parce que clairement, on a eu pendant des années des injonctions à il faut moins polluer, il faut s'électrifier, il faut réussir la transition énergétique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas populaire ce que je vais dire, mais c'est une excellente chose de voir que la consommation à la pompe diminue. C'est la preuve même qu'en fait, on aurait peut-être dû poursuivre la taxe carbone, mieux l'expliquer, mais peut-être que les taxes carbone fonctionnent mieux quand elles sont exogènes plutôt qu'endogènes. Donc merci quelque part à ce
Voilà, ça n'est pas le pouvoir politique qui décide d'augmenter le prix à la pompe.
C'est une excellente chose, notamment pour le climat. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si effectivement on électrifie massivement nos usages et nos mobilités, qu'on passe drastiquement du véhicule électrique au véhicule thermique, si on prend tout le véhicule thermique, c'est simple, entre quand on regarde le total, il y a les 30 milliards que vous avez dit, mais si on prend toutes les autres taxes qui sont liées, toutes les impôts sur les sociétés, des sociétés qui sont, on est à peu près à 50 milliards d'euros. Donc l'État aujourd'hui, il a deux choix. Soit je dis, effectivement, mon objectif c'est sauver l'environnement, et dans ces cas-là, je ne touche pas du tout à la fiscalité de l'électricité parce que c'est ce qui est le plus vertueux. Et donc du coup, je m'assois sur 50 milliards d'euros par an.
Il faut qu'il sauve son budget aussi, l'État.
Soit il dit, dans ces cas-là, en fait, la transition écologique c'était qu'un prétexte, et ce qui compte en fait, c'est mon propre train de vie, c'est mon propre poids, et dans ces cas-là, je fais ce transfert de 50 milliards des véhicules thermiques vers les véhicules électriques. C'est pour ça que ça va être un révélateur, je pense, très important de à quoi sert un État aujourd'hui et quel doit être le rôle d'un État au XXIe siècle.
Patrick.
C'est intéressant parce que ça montre quoi ? C'est que la transition écologique, elle doit naturellement s'accompagner d'une transition fiscale.
Fiscale, ben oui.
Et pour une raison qui est simple, c'est qu'on l'a évoqué, les chiffres sont quand même édifiants, mais on pourrait y rajouter une dimension qualitative à ce chiffre, c'est que c'était un pilier des recettes fiscales de l'État. Parce que c'était ultra prévisible, c'était à la pompe, ça arrivait bien tranquillement. Donc il y a un vrai sujet. Et en réalité, si on veut poursuivre cette transition écologique et ce que nous souhaitons tous, eh bien, on ne peut pas augmenter de façon significative les taxes sur l'électrification, même si elles ont augmenté. Mais sinon,
cette augmentation, je l'ai trouvée spectaculaire et c'est à bas bruit. Personne n'en parle. En gros, de 2 à 12 milliards en 2 ans. Bon, voilà. 10 milliards de plus sur les ménages et les entreprises.
C'est, l'idée, on va donner quelques exemples, notamment sur les pays scandinaves, c'est qu'il faut faire payer l'usage plutôt que le réservoir. Mmh. Et quand on regarde ce qui se passe en Norvège, au Danemark, etc., l'idée, qui sont des pays qui sont, en termes de véhicules électriques très développés, il y a une taxe sur le trafic, sur le poids des véhicules, sur l'heure.
Oui, c'est ça, ça peut être le kilomètre même,
sur les péages,
une sorte de péage.
Sur l'heure voilà. aussi pour régler le sujet de la congestion, parce que voiture thermique ou voiture électrique, la congestion automobile et la circulation, l'utilisation des routes, l'usure des routes, etc. Donc, il y a probablement, ils appellent ça, je crois, le road pricing.
Oui.
C'est-à-dire que
on
fiscalise sur la base de l'usage. Mais là, je voyageais ce week-end et puis je voyais, vous savez, les anciens portiques qu'on a arrêtés pour c'était des portiques qui devaient être
la révolution était rouge, mais oui, en Bretagne notamment c'était les bonnets rouges à l'époque, il y a une quinzaine d'années.
On en revient au sujet de fond, c'est que on est dans un sujet de transition fiscale, mais quand on veut taxer l'usage, on touche à la politique et au social. Et donc, ça devient bien plus compliqué que d'avoir à côté de la pompe à carburant, une petite pompe à fiscalité.
Clémentine.
Au-delà de la transition vis-à-vis du climat et de la transition fiscale qui sera nécessaire pour la compagnie, là où c'est une bonne nouvelle, c'est en termes de balance commerciale. Il ne faut pas oublier qu'on est très déficitaire sur les énergies fossiles.
Et oui, c'est
si on réduit
50,
notre 60 consommation,
milliards de mémoire.
Voilà, et par contre, on est fortement producteur d'électricité. Hein, donc en 2025, on a été exportateur net. On a exporté l'équivalent de la consommation de la Belgique électricité sur un an. Donc c'est marquant. Et donc c'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, sans juste se focaliser sur les finances publiques, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie française si on arrive à mener cette transition de façon efficace en termes d'autonomie énergique et en termes de relais de capacité de production de l'électricité française.
Ah, voilà un bon raisonnement en solde.
Oui, en dynamique.
Non, mais on a créé l'électricité, ça baisse sur le plan du carburant, mais on a développé des exportations considérable.
Voilà, bon, la difficulté, c'est de gérer la transition.
Bah oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance aux politiques pour gérer la transition ? Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été produits hein, par l'IGF, par la Cour des comptes, le Conseil des prélèvements obligatoires, France Stratégie, etc. Mais enfin, on est quand même dramatiquement absent du débat public sur cette thématique, non ? On entre quand même en année présidentielle.
Surtout bon. Que vous avez un rapport du Trésor qui estime que d'ici 20 à 30 ans, c'est 13 points de dette en plus, justement, qui sont liés à l'absence de rentrées fiscales liées justement aux énergies fossiles. Donc, dans un environnement en plus de plus en plus incertain, avec un OAT qui augmente mécaniquement et continuellement, c'est quand même assez inquiétant. Non, moi je pense que ça sera un sujet de la présidentielle. Je pense que le côté électrification de nos structures sera un gros sujet. Nous, on appelle un plan Mesmer 2 parce que quand on regarde, en fait, on est exactement dans le même momentum, avec le même besoin et avec la même le même objectif. Et là, on a en plus la capacité d'avoir des technologies qui sont beaucoup moins chères qu'à l'époque en termes d'investissement.
C'est un peu ce qui se prépare avec les 6 EPR supplémentaires, non ?
Ça se prépare, oui.
Les micros.
Mais le problème de la politique énergétique, Raphaël, c'est est-ce que vous pouvez nous dire le 12 mai 2027, quelle sera-t-elle ? Vu qu'elle dépend du fait du prince et qu'on est dans une politique qui n'est absolument pas protégée de la décision politique,
oui.
Qui peut changer. Enfin, je vous rappelle juste, là, si on prend par exemple les PPE qu'on a pu avoir depuis 2017...
Les programmations pluriannuelles de l'énergie.
Elles vont dans deux sens différents.
Absolument. La PPE 3 qui vient d'être adoptée dit exactement le contraire de la PPE 2 il y a 5 ans.
Alors qu'elles ont été préparées par les gouvernements
gouvernement. Hein, il y avait un même président. C'est vrai.
Pas les mêmes gouvernements.
En tout cas, le même chef de l'État. En tout cas,
le même chef de l'État.
La même majorité.
Oui,
la même majorité.
Le même président de la République.
Oui.
En France, on est en un.
C'est le même qui a fermé Fessenheim et qui a lancé 6 réacteurs nucléaires par la
Et du coup, ça pose une question, effectivement, peut-être dans la campagne, de se dire on a besoin d'avoir un fort plan d'électrification, on a besoin d'avoir des anticipations sur le long terme qui soient figées, qui soient fixes. Et là-dessus, il y a une chose que nous, on appelle de nos voeux depuis longtemps, c'est de confier la politique énergétique à des autorités indépendantes et de donner, par exemple, exemple à EDF le statut d'une banque centrale, c'est-à-dire hermético-politique, avec une règle, une vision et un objectif à long terme. Elle ne déviera pas de cet objectif, on le sait. Sa nomination ne dépend pas du politique. C'est le fameux débat de la règle et de la décision. On oui. échappe justement à toutes les turpitudes discrétionnaires. Et donc, dans ces cas-là, on a un cap et tout le monde converge vers ce cap-là. On fixe l'anticipation dans le long terme.
Je pense que le président directeur général d'EDF serait totalement favorable.
Je pense aussi.
Lui qui est souvent pris par des vents très contraires du côté des politiques et des besoins.